VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 5 minutes, Carrefour avec Jacques Aristide, mais tout d'abord les nouvelles. Conflit en Libye, le président américain Barack Obama a déclaré aujourd'hui à Washington que les frappes de l'aviation des États-Unis contre le groupe État islamique à Sirte relevaient de la sécurité nationale de l'Amérique et de ses alliés européens. Le chef de l'exécutif a souligné qu'il est de l'intérêt des États-Unis de faire en sorte que les forces pro-gouvernementales libyennes puissent terminer le travail à Sirte et que l'État islamique n'ait pas de place forte en Libye. Sur le terrain, les pro-gouvernementaux libyens continuent leur progrès à Sirte, principal bastion du groupe État islamique dans le pays, après les frappes aériennes américaines de lundi contre les positions des djihadistes. Jacques Aristide.
Premières frappes américaines qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes à Sirte, d'après Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen, aussi connu comme le GNA. Washington a confirmé ces bombardements, le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, indiquant qu'il s'agissait de frappes précises contre des cibles du groupe État islamique et qu'elles allaient se poursuivre. Un responsable de la Maison-Blanche a expliqué pour sa part que le président Barack Obama avait autorisé les forces armées américaines a effectué des frappes en appui aux forces du gouvernement d'Union à la demande du Premier ministre libyen. Mais pour M. Sarraj, ces frappes interviennent dans un cadre limité dans le temps et elles ne dépasseront pas Sirte et sa banlieue. Les forces pro-GNA tentent de reprendre la totalité de la ville de Sirte, dans laquelle elles sont entrées le 9 juin et où elles assiègent depuis les djihadistes. Elles sont ralenties par la forte résistance des djihadistes qui mènent à des contre-attaques, notamment perpétrant des attentats suicides à la voiture piégée.
Au Nigeria, l'armée nigériane a déclaré aujourd'hui avoir déjoué un projet d'attaque des djihadistes de Boko Haram près de Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno et berceau du groupe islamiste dans le nord-est du pays. 5 djihadistes ont été tués.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, la délégation de l'Union européenne a exhorté aujourd'hui les autorités congolaises et l'opposition à créer des conditions favorables au démarrage rapide du dialogue national en vue d'élections apaisées. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
C'est par le biais d'un communiqué que l'Union européenne a insisté sur l'importance d'un dialogue inclusif avec, selon leurs termes, toutes les autres parties concernées. Un dialogue qui doit démarrer, selon les Européens, le plus rapidement possible. Samedi dernier, le facilitateur Edem Kodjo avait reporté sine die le démarrage des travaux préparatoires au dialogue national. Le lendemain dimanche, l'opposant Étienne Tshisekedi avait accepté le principe du dialogue national tout en récusant Edem Kodjo, l'accusant de faire le jeu de Joseph Kabila. Fin novembre, le chef de l'État au pouvoir depuis 2001 avait convoqué un dialogue national réunissant majorité, opposition et société civile en vue d'élections apaisées. Dimanche, la commission électorale a lancé des opérations d'enrôlement des électeurs qui devraient se dérouler sur 11 mois, selon son président Corneille Nanga, un délai qui rend quasi impossible la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année, alors que le mandat du président Kabila se termine le 19 décembre.
Conflit au Soudan du Sud, environ 60 000 personnes ont cherché refuge à l'étranger depuis la reprise des combats entre les factions rivales dans le pays. Les précisions de Nathalie Barge.
Le mois dernier, environ 52 000 personnes ont fui en Ouganda, 7 000 au Soudan et 1 000 au Kenya, a indiqué le HCR. En tout, près de 900 000 Sud-Soudanais ont quitté leur pays depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, selon l'agence onusienne. Les personnes fuyant la violence la plus récente dans la capitale Djouba ont dit avoir été refoulées par des groupes armés sur la route de l'Ouganda. L'accord de paix conclu il y a un an a été menacé à plusieurs reprises par les combats.
Et pour terminer, en Afrique du Sud, les Sud-Africains votent demain aux élections municipales. Le scrutin s'annonce ardu pour le parti au pouvoir, l'ANC, qui a facilement remporté jusqu'à présent toutes les élections locales et nationales depuis la fin de l'apartheid en 1994, mais qui est affaibli politiquement en ce moment par le contexte économique difficile et les démêlés du président Jacob Zuma avec la justice. Merci de votre attention. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de Carrefour, votre rendez-vous hebdomadaire avec les sciences, technologies et la santé. Jacques Aristide avec vous. Au sommaire, plein feu sur la 21e conférence internationale sur le sida en Afrique du Sud. Toujours pas de remède en vue alors que les progrès réalisés dans la lutte contre la pandémie sont menacés par une diminution de financement.
Nous recherchons à l'heure actuelle des voies et moyens pour diminuer cette perte de vue le long de la cascade.
Également au programme, paludisme et les craintes que des bactéries résistantes aux médicaments en Asie du Sud-Est pourraient atteindre les côtes africaines. Et puis, au chapitre technologie, gros plan sur cette nouvelle application pour nettoyer votre voiture. Ça s'appelle Blink My Car. Tout cela et bien d'autres encore dans Carrefour sur VOA Afrique. 2,5 millions de personnes sont encore infectées chaque année dans le monde par le virus du sida, un chiffre qui ne recule plus depuis 10 ans, d'après une étude publiée cette semaine à l'occasion de la conférence internationale sur le sida organisée du 17 au 22 juillet à Durban. Sur le continent, la maladie est la première cause de mortalité chez les 10 à 19 ans. Le point avec Michel Joseph.
Cette nouvelle analyse, parue dans la revue médicale The Lancet HIV, donne une image inquiétante de la lenteur des progrès pour réduire les nouvelles infections par le VIH, selon le Dr Haidong Wang de l'Institut américain de métrologie sanitaire et d'évaluation à l'Université de Washington à Seattle. D'après la publication, le nombre annuel de nouvelles infections est resté relativement constant dans le monde, près de 7 000 par jour, ces 10 dernières années, après une période de reflux rapide entre 1997 et 2005. Ces chiffres sont stupéfiants, a commencé à Durban Peter Piot, le directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Les nouvelles infections, a-t-il estimé, sont probablement l'élément le plus inquiétant annoncé à cette conférence où sont présentées les dernières avancées de la lutte contre une épidémie qui a fait plus de 30 millions de morts depuis les années 80. En 2015, 3/4 des nouvelles infections sont survenues en Afrique subsaharienne. En Europe, ce sont la Russie et l'Ukraine qui présentaient en 2015 le plus grand nombre de nouvelles infections. Les spécialistes redoutent que la situation s'aggrave avec la baisse des financements des programmes de la lutte, avec la baisse des financements des programmes de lutte contre le VIH. En 2015, ils sont passés en dessous du niveau de 2014 et dans de nombreux pays aux faibles ressources, les moyens consacrés à la santé sont faibles et ne devraient augmenter que lentement, si encore ils augmentent, a souligné Dr Wang à Durban. Une augmentation massive des efforts des gouvernements et des organismes internationaux est requise pour atteindre les quelque 36 milliards de dollars nécessaires chaque année pour réaliser l'objectif de mettre fin au sida d'ici 2030, a prévenu Christopher Murray du même institut américain. Selon l'étude, 38,8 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2015 contre 28 millions en 2000. Après un pic de 1,8 million en 2005, les décès dus au sida ont baissé à 1,2 million en 2015, notamment grâce à l'intensification des traitements antirétroviraux, ARV, et à la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Mais en dépit des progrès, la plupart des pays sont encore loin d'atteindre l'objectif fixé par l'ONU SIDA de traiter 90% des patients infectés d'ici 2020. En 2015, seuls 4 séropositifs sur 10 recevaient un traitement ARV, selon l'étude. Cette couverture thérapeutique est très variable selon les régions et les pays. Une intensification est nécessaire, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe de l'Est, souligne l'étude. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni médicament permettant de guérir du sida. Les scientifiques réunis à Durban ont prévenu que la recherche n'en était qu'à ses débuts. Nous ne savons pas quand nous aurons un remède, ni si nous aurons un remède, a mis en garde la Française Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine pour la co-découverte du VIH. Cela ne signifie pas qu'un remède est impossible, il s'agit simplement de dire qu'un vrai remède est très, très difficile à trouver, conclut-elle.
En marge de ce sommet SIDA, s'est tenue toujours à Durban, en Afrique du Sud, la réunion annuelle du plan présidentiel américain d'aide d'urgence à la lutte contre le SIDA, plus connu comme PEPFAR. Nathalie Barge.